Ils peuvent prendre plusieurs formes, avoir différentes motivations, le faire consciemment ou le faire totalement inconsciemment, mais au bout du compte, leur manipulation fonctionne uniquement si vous leur laissez le pouvoir de stimuler la culpabilité en vous. Pour que ça n'arrive pas, il faut devenir souverain. Bienvenue dans Hypnoconscience. Se sentir coupable est extrêmement désagréable et pour se sortir de cet état, les gens vont souvent se plier à n'importe quoi et devenir facilement manipulables. Heureusement, il y a d'autres façons de s'occuper de la culpabilité. La culpabilité, c'est normal, c'est nécessaire. Pour vivre en société, je le dis souvent, on en a besoin un petit peu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la gérer et qu'on la conserve à long terme. Comme je dis tout le temps, si tu n'as pas du tout de culpabilité, jamais, ben, t'es probablement un psychopathe. Le problème, c'est qu'à 90% du temps, c'est pas réel. On n'a pas d'affaire à se sentir coupable. C'est plutôt l'autre ou les autres qui ne prennent pas leur propre responsabilité. Les façons, je dirais, habituelles et inconscientes de gérer la culpabilité dans l'humanité, c'est habituellement un de la refouler, c'est-à-dire qu'on va la repousser très, très, très profondément. Consciemment, on ne la ressentira pas. C'est un mécanisme normal parce que ça fait trop mal, mais lorsqu'on amène les gens à observer en conscience, à méditer dans leur état, dans leur situation, ben souvent, ils la touchent et ils se rendent compte qu'il y en a de la culpabilité. L'autre façon, c'est de la projeter. On connaît le principe du bouc émissaire, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à accuser tout un chacun de toutes sortes de choses inconsciemment pour en quelque sorte se laver de leur propre culpabilité. Ou dans la dernière option, ils vont tout simplement se plier à cette culpabilité-là, se plier au culpabilisateur, si on veut, de façon à dire « bon, ben je vais faire ce qu'il veut, comme ça, il va être content, puis moi, je me sentirai pas coupable. » Sauf que, comme je vous disais, dans 90% du temps, vous avez pas d'affaire à vous sentir coupable et vous allez plutôt tout simplement acquiescer aux attentes des autres qui ne sont pas légitimes. Et il y a une autre façon de gérer la culpabilité, de s'en débarrasser, et c'est important de la gérer, de s'en débarrasser, comme c'est important de gérer et de se débarrasser d'un deuil. C'est-à-dire que pour moi, la culpabilité devrait être ressentie quelques minutes, voire quelques secondes, et on devrait rapidement passer en mode responsabilisation. Mais je vous explique tout ça plus tard dans l'épisode. Commençons par certains exemples de manipulation par culpabilité. Mais là, je dois dire que souvent, c'est de la victimisation. C'est important de faire la différence entre quelqu'un qui est malveillant et qui utilise consciemment la culpabilisation et quelqu'un qui est tout simplement dans un mécanisme inconscient, je dirais de victimisation, qui est tout simplement une personne qui manque de maturité, qui a une maturité émotionnelle déficiente, qui va entrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire que la personne va se positionner en victime, vous positionner en bourreau pour obtenir l'aide d'un sauveur. Et ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire dans les trois positions avec la même personne, c'est-à-dire qu'elle se met en victime, elle vous met en bourreau. Comme vous n'aimez pas sentir la culpabilité, ben vous basculez dans le sauveur. Elle peut vous mettre bourreau pour obtenir l'aide d'un sauveur extérieur. Tout ça existe. Elle peut pointer du doigt un bourreau extérieur pour stimuler chez vous votre côté sauveur. Et tout ça existe. Mais c'est important de faire la différence entre ces deux personnes-là parce que je dirais que j'ai plus de compassion pour l'une que pour l'autre. Et je me suis amusé à sortir des phrases et je suis certain que plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître là-dedans, soit que vous le faites, soit que vous l'entendez autour de vous. Par exemple, On a tous déjà entendu ça et souvent ça vient très loin, hein? Ça vient de notre enfance parce que les plus grands manipulateurs par culpabilité, bon, on va se le dire, sont souvent nos parents ou à l'inverse, on est parents, ça va être nos enfants, c'est utilisé par tout le monde. Donc, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci ou cela. Alors qu'en fait, l'amour a absolument rien à voir avec répondre à toutes les attentes des gens et tous les caprices. Mais comme je vous dis, comme quand on va chercher l'émotion de quelqu'un, ça n'a rien de logique. Souvent, l'émotion va prendre le dessus beaucoup plus rapidement. Et là, on va se sentir mal et on va plier. Une autre phrase fétiche aussi. Moi, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ça, mais toi, tu fais rien pour moi. Hein? Ce que j'appelle faire pour être. J'ai énormément de gens, je dirais plutôt même de femmes dans mon bureau qui viennent me voir, qui sont aux prises avec ce mécanisme-là et elles en souffrent énormément. Parce que dans leur conception des choses, elles se sont tellement sacrifiées que les autres devraient donc les aimer ou faire les mêmes sacrifices ou leur donner ce qu'elles demandent. Le problème, comme j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, de ce concept-là de faire pour être aimé, c'est que quand on culpabilise les autres, ils ne se sentent pas bien, ils s'éloignent. Plus on s'éloigne, plus on en fait. Plus on en fait, plus on est frustré. Plus on est frustré, plus on les culpabilise et on leur dit que nous, on a tout fait ça pour eux et qu'ils font rien. Et au bout de la ligne, ben on se sabote et on n'obtient pas ce qu'on veut et on brise nos relations et on se retrouve tout seul. Ce qui fait que c'est souvent les personnes justement les plus gentilles qui vont se retrouver le plus tout seul parce qu'ils culpabilisent les autres. J'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Quand je les accompagne, je les amène vraiment à prendre conscience de ça et à dire « arrête de faire ça » parce qu'on n'aime pas les gens pour ce qu'ils font, mais on aime les gens pour ce qu'ils sont. Et si tu es un culpabilisateur, ben, y a personne qui va vouloir être avec toi. Une autre phrase classique, « oui, vas-y, tu peux sortir, hein, t'sais, ton chum ou ta blonde t'a dit ça, tu peux sortir avec tes amis là, d'un bar, là, mais en tout cas, moi, je vais rester tout seul à la maison, là, puis je vais rien faire. » C'est ce qu'on appelle une double contrainte. Donc, je te dis oui pour avoir l'air bien correct, mais je te lâche une autre petite phrase par en dessous pour te faire comprendre que moi, j'en souffre, pour aller stimuler un peu de culpabilité et espérer ben, que tu vas revirer de bord puis que tu vas rester à la maison. Ça, c'est un classique. Une autre phrase, souvent utilisée beaucoup par les pervers narcissiques, et ça, je trouve ça épouvantable, « c'est de ta faute si j'ai pété les plombs. Hein? » Je t'ai sacré une volée, mais dans le fond, c'est de ta faute parce que c'est toi qui n'as pas été correct, donc je t'ai légitime de te sacrer une volée. Pour les gens extérieurs, quand on voit ça, on trouve ça épouvantable, puis on trouve que ça fait pas de sens, mais il y a énormément de gens, malheureusement, de femmes, qui sont aux prises avec des gens oppressants comme ça, qui utilisent la culpabilité de cette façon-là pour justifier des actes complètement ignobles. D'ailleurs, et là je voudrais pas, je vais peut-être fâcher des gens, et là l'idée c'est pas de dire si le vaccin est bon ou pas bon, on s'en fout, mais durant la pandémie on a entendu ça, hein, c'est de ta faute si grand-maman meurt à cause de la COVID, hein, c'est parce que t'as pas été vacciné. Alors que scientifiquement, ça faisait absolument aucun sens. On a essayé de nous faire avaler ça. Aujourd'hui, on sait que ça n'a rien à voir que les gens vaccinés ou non vaccinés. C'est la même chose. Ils propageaient pas plus ou moins le virus. Ou si ça faisait une différence, elle était tellement mineure qu'il n'était pas justifié d'utiliser ce type de phrase-là. Mais j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Pour manipuler, on utilise toujours d'abord la peur et ensuite la culpabilité. Et juste avec ces deux émotions-là, on obtient la majorité des gens et on leur fait faire ce qu'on veut. D'ailleurs, les woke, ce qu'on appelle les woke, ou je dirais même, encore là, je vais peut-être fâcher des gens, de mon observation, les grands militants du non-binaire qu'on voit beaucoup depuis peut-être 2-3 ans sont dans ça à fond. C'est-à-dire, si je chauffe, si j'ai de la peine, c'est de ta faute. Hein? On entend des gens souffrir là parce que « Ah, je suis allé au restaurant, puis il m'a appelé monsieur, mais moi, je me considère pas monsieur, je me considère madame. » Et tout ça, ça fait aucun sens. Pourquoi? Parce que visuellement, la personne ressemble à un homme. Je peux comprendre que toi, puis j'ai rien contre les non-binaires, si tu veux te sentir comme une femme, comme une baleine, comme un chat, comme un renard, tu te sens comme tu veux, tu fais ce que tu veux, puis tant mieux pour toi. Mais viens pas me culpabiliser de ta souffrance parce que moi, je t'ai nommé d'une telle ou telle façon. Sauf qu'on voit que les gens ne sont plus dans la raison dans ça. Ils tombent rapidement dans l'émotivité et ils plient. Ils se sentent coupables, donc ils disent « je vais lui donner ce qu'il veut, comme ça on va arrêter de me pointer comme étant un bourreau et enfin je vais me sentir bien, je vais me libérer de la culpabilité. » Et pour moi, ça fait aucun sens. Parce que, et là on ne parle pas juste des traits, par exemple les cheveux, la barbe ou ces choses-là. Instinctivement, on voit une physionomie, une shape hein, de quelqu'un. Et comme on est habitué depuis toujours, je dirais des millénaires, mais des millions d'années à définir homme-femme, rapidement, ça rentre dans notre tête. C'est une femme, c'est un homme, et on arrive à le définir. Donc là, comment tu te sens, toi, à l'intérieur? Tu peux pas m'accuser si moi j'arrive et que, pour moi, je pense pas que t'es ça. Tu peux pas m'accuser de ta souffrance. Avant qu'on me fasse sentir coupable de ça, les gens vont falloir qu'ils se lèvent vraiment de bonne heure. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Une autre phrase. Si tu m'aides pas, ben je vais échouer puis ça va être de ta faute. Une autre phrase que j'ai déjà entendue et que je trouve épouvantable parce que les gens ne se responsabilisent pas. Non, si tu échoues, c'est de ta faute. Moi, je suis pas obligé de t'aider. Je veux bien t'aider. Mais si tu échoues, ça sera pas parce que moi, je t'ai pas aidé. Une autre forme de culpabilisation ou de manipulation par la culpabilité, c'est le boudage. Hein? Démontrer sans les mots à l'autre qui nous a fait du mal. On se met dans un coin et on boude. Ben, le boudage, c'est une forme de violence psychologique par culpabilité pour obtenir ce qu'on veut. Et by the way, pour les gens qui boudent, bouder est une stratégie d'un enfant de 2 ans. Donc, dites-vous que quand vous tombez dans ce mécanisme-là de boudage, émotionnellement, vous avez 2 ans. Et là, toutes ces phrases-là, tous ces exemples-là que je donne, c'est pas seulement pour les gens qui les subissent et qui doivent devenir souverains pour ne plus plier à ça, mais c'est aussi pour les gens qui se reconnaîtraient qui se disent « oui, moi j'utilise ces phrases-là, je boude » ou des choses comme ça, de peut-être dire « ben, il serait peut-être temps que j'évolue, il serait peut-être temps que je mature émotionnellement, que je grandisse, que je me responsabilise et que j'arrête de culpabiliser les autres parce qu'on crée de la souffrance et pour nous et pour les autres lorsqu'on utilise ce type de stratégie-là. » Une autre phrase classique, « bon, c'est ça, moi je peux compter sur personne, je suis toujours tout seul. » C'est une phrase qui est lancée comme ça, « at large », qui nous place dans la victimisation, et qui va générer chez les autres une espèce de malaise et d'envie d'intervenir et d'aider. Alors que, encore là, c'est complètement faux, les gens sont jamais tout seuls. Oui, ils peuvent compter sur les gens. Et la vraie question, c'est pourquoi les gens viennent pas t'aider? Peut-être qu'il y aurait un petit quelque chose à vérifier là. Peut-être que t'es trop désagréable à côtoyer puis que finalement, t'as pas tant d'amis. Une autre phrase vraiment triste qu'on entend aussi, ben si tu me quittes, je vais me suicider. Clairement, c'est de la violence aussi. Ces gens-là ont besoin d'aide. C'est épouvantable de dire ça. Et si parce que vous avez quitté quelqu'un, la personne s'est suicidée, je suis désolé, mais vous n'êtes pas coupable. Bien sûr, dépendamment tout comment ça s'est passé, tout ça, des fois, il y a des choses à décortiquer dans ça, mais clairement, c'est la personne qui avait besoin d'aide et qui n'a pas su aller chercher l'aide dont elle avait besoin. Plus subtil, par contre, et ça, des fois, on va le retrouver dans le monde du travail, mais tout le monde le fait. Hein? Tout le monde ici fait de l'overtime. Sans toi, là, on est fichu, là. Si tu viens pas, là, tu me mets dans la marde. Hein? On appelle, là, on est malade, là, et là, l'employeur va dire « Ah, ben là, tu me mets dans la marde. » Hey, si je suis malade. Mais c'est quelque chose qu'on voit aussi régulièrement. Puis oui, c'est vrai que l'employeur va probablement être dans la marde, encore plus dans les jours qu'on vit présentement où il y a une carence au niveau des employés. Mais c'est la réalité, puis il faut apprendre à vivre avec la réalité et arrêter de culpabiliser les gens par rapport à ça. Et une petite dernière, juste pour rire, que je trouvais drôle, parce que je pense qu'on l'entend plus vraiment de nos jours, mais c'est une phrase qu'on entendait quand moi j'étais jeune. Bon, si tu finis pas ton assiette, là, pense aux pauvres du tiers-monde. Hein? Nous autres, on nous disait, pense aux petits Éthiopiens. Et quand on regarde ça, ça stimule la culpabilité, comme si on disait, parce que toi, tu finis pas ton assiette, les autres souffrent de la faim dans le monde. Alors, encore là, que ça n'a fait absolument aucun sens. Alors, voyez-vous, dans chacune de ces phrases-là, l'idée, c'est de revenir à la logique. Hein? Parce qu'il existe encore bien d'autres façons de culpabiliser les gens. L'important, c'est d'abord et avant tout de se rendre compte, là, de prendre conscience qu'on se sent coupable. Parce que c'est très souvent inconscient. On vit l'émotion, on tombe dans la réaction, on pose des actions, on agit très rapidement, mais on ne prend pas le temps de retourner dans un côté plus logique, de conscientiser, de se demander est-ce que ça fait vraiment du sens? Et ensuite, ben, faut sortir de ces émotions-là justement pour retrouver une certaine logique et se balancer. Particulièrement sortir des émotions de peur, hein, la peur d'être rejeté, la peur du jugement, la peur de passer pour une personne méchante aux yeux d'eux autres. C'est peut-être la partie la plus difficile parce qu'on est conditionné à ça. On est conditionné à vouloir être accepté par les autres, à vouloir faire partie du groupe, à vouloir être aimé. Donc très rapidement, quand on est touché par la culpabilité, on perd toute logique. Donc, utiliser la logique, c'est quoi en fait? Ben, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, il s'agit de passer la culpabilité en justice, de façon, je dirais, neutre. Bien sûr, cette neutralité-là, elle n'est pas vraiment objective, elle va changer en fonction de nos croyances. C'est pourquoi les systèmes de justice sont pas tous pareils à travers le monde, parce que les différentes cultures sont habitées de différentes croyances et différentes perceptions. Mais je dois vous dire que les croyances aussi, ça se travaille. Et une des choses importantes, ben, faut accepter que les autres n'aient pas les mêmes croyances que nous. Donc souvent, en fonction de nos croyances, on va se dire, ben oui, t'as commis quelque chose de mal, regarde, telle chose égale telle chose. Alors que moi, je n'ai pas du tout cette croyance-là. Et si on veut gérer la culpabilité, ben, il va être important de trouver un équilibre dans tout ça en fonction de ben, qu'est-ce qui, moi, m'habite, quelles sont mes croyances et quelles sont mes valeurs versus celles de l'autre et comment je peux quand même prendre considération de ces croyances-là qui habitent l'autre sans... pas me dénigrer, mais sans m'oublier moi, hein, continuer à prendre en considération parce que finalement, c'est toujours moi qui va vivre avec mes émotions. Et comme je disais, 90% du temps, ben, on n'a pas de raison de ressentir la culpabilité. Et passer la culpabilité en justice, j'ai fait ça aussi plusieurs épisodes là-dessus, c'est quoi? Ben, c'est d'abord se demander, est-ce que je savais, est-ce que je pouvais, et est-ce que je devais? Ou au présent, est-ce que je dois, est-ce que je peux faire quelque chose pour la personne? Se demander, est-ce que c'est vraiment de mon ressort, ce que la personne vit ou a vécu, ou est-ce que c'est pas relié plutôt à ses propres perceptions, à ses propres croyances, à son propre manque de responsabilisation? Et là, ben, ça sera à vous de départager tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on réalise à 90% du temps qu'on n'a pas à se sentir coupable? Ben, vous aurez à ajuster vos émotions à votre raison. Et ça, c'est pas évident, parce que souvent, les deux sont très, très, très divisés. Hein? L'exemple que je donne souvent, c'est « j'ai peur de quelque chose, je sais très bien logiquement que j'ai pas d'affaire à avoir peur, qu'il y a pas de danger, mais j'ai peur pareil ». Ben, c'est pareil pour la culpabilité. Je peux savoir que j'ai pas de raison de me sentir coupable, mais me sentir coupable pareil. Et c'est là où intervient, encore et toujours, comme d'habitude, l'observation consciente. C'est un très bon outil pour ça, pour intégrer les deux informations. Intégrer, c'est quoi? C'est lorsque et la raison, la partie adulte, et l'émotion, la partie enfant, arrivent à se parler inconsciemment et à fusionner pour avoir la même opinion, si on veut. Je sais que c'est pas toujours facile. Si c'est trop difficile pour vous, ben, je vous invite à consulter, à aller chercher de l'aide, voire même peut-être à prendre ma formation, la formation que j'ai créée qui est Tisser la toile de l'inconscient. Pour avoir plus d'informations sur ça, ben, vous pouvez aller sur mon site pascalbrousseau.com et communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations. Mais comme disait Peter Levine, que je cite souvent, cette observation consciente-là ou ce felt sense-là permet l'expérience intégrée, c'est-à-dire c'est comme d'observer une même chose de plusieurs points de vue différents en même temps. Donc j'observe la situation et inconsciemment, il y a et l'enfant et l'adulte et la logique et l'émotion qui l'observent et ils finissent par fusionner ensemble, s'intégrer pour avoir une seule et même opinion sur le sujet, émotive et logique. Mais par contre, si après avoir passé tout ça en justice, effectivement, je suis coupable, j'ai commis quelque chose qui a créé des torts à quelqu'un ou à un groupe, ben rapidement, je vous invite à passer en mode responsabilisation. Parce que la responsabilisation, vous êtes souverain, vous prenez en main les choses et vous arrêtez de souffrir de la culpabilité. qui est beaucoup plus destructrice que la responsabilisation, parce que vivre dans la culpabilité, parce que souvent on fait ça à long terme, ça rend malade. La responsabilisation, pour moi, c'est quoi? C'est la repentance. J'en ai parlé encore souvent dans d'autres épisodes aussi. La repentance, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout de reconnaître. Reconnaître que, effectivement, j'étais inconscient, j'ai commis un acte, j'ai dit des paroles, j'ai fait des choses qui ont créé un tort. Ça demande beaucoup d'humilité et d'honnêteté. Mais ce qui permet par la suite de se tourner vers la personne ou les groupes et de reconnaître ça et de demander pardon. Donc, on demande ensuite pardon, on répare si c'est possible. Parce que des fois, c'est pas possible de réparer, mais on a beaucoup ce concept-là de réparation. Hein. On dit avoir payé sa dette à la société quand on fait de la prison, mais j'ai jamais compris le lien. Moi, je me dis la prison devrait uniquement servir à mettre les gens dangereux à l'écart de la société. Je pense pas que ce soit une façon de réparer. Je pense qu'on serait tant qu'à ça mieux de faire des travaux communautaires ou de payer ou peu importe. Mais donc, on répare si c'est possible. Et c'est important de prendre le temps nécessaire. Le temps nécessaire face à l'autre d'apporter, on pourrait dire, réparation, réconfort ou peu importe. Parce qu'on va s'entendre, il y a une grande différence entre accrocher le coude de quelqu'un ou le tuer. Hein? Donc, si j'accroche le coude de quelqu'un, je vais m'excuser, mais au bout de 5 secondes, c'est fini. Si la personne essaye de me faire sentir coupable, je vais plutôt comprendre qu'elle a un petit problème entre les deux oreilles. Maintenant, si j'ai tué quelqu'un, ben, je peux pas, après 5 secondes, dire à la famille, bon, ben, c'est beau, je regrette, je me suis pardonné. Hein? On comprend un peu le concept du temps nécessaire de réparation. Parce qu'il y a des niveaux de gravité. C'est un concept qu'on a en justice. Ensuite de ça, ben, on s'engage à faire de son mieux pour ne pas recommencer. Puis on s'engage face aux autres, mais on s'engage face à soi-même aussi parce que c'est un cheminement de croissance personnelle. On doit prendre conscience de cette erreur-là qu'on a faite et désirer profondément s'améliorer et ne pas recommencer. Et ensuite, étape finale, qui est probablement la plus difficile, ben, on se pardonne soi-même. Parce que se pardonner soi-même, on n'a pas besoin du pardon de l'autre. Il est possible que l'autre ait de la rancœur pour nous pour les 40 prochaines années, pour une petite affaire qu'on y a faite. Et la culpabilité ne doit pas dépendre du pardon de l'autre. Il faut savoir à un moment donné dire « Ok, c'est beau, je reconnais. » Et maintenant que c'est réglé, je me pardonne et je passe à autre chose. C'est difficile parce qu'on est conditionné à la culpabilité. Et une des façons, un truc que je donne aux gens pour arriver à se pardonner soi-même, c'est le même truc que je donne pour arriver à pardonner aux autres. C'est tout simplement de réaliser que tout le monde commet des erreurs, qu'on est tout inconscient, qu'on a tout, entre guillemets, commis des péchés. Hein? Quand Jésus disait aux autres que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, tous les gens sont partis. Pourquoi? Parce que plus tôt dans le verset, c'était écrit qu'il écrivait au sol, dans le sable. Les textes nous disent pas ce qu'il écrivait, mais la tradition orale nous disait qu'il écrivait les noms de chaque personne qui était là avec tous les péchés qu'ils avaient faits. Donc, en lisant ça, les gens se rendaient compte que Jésus savait exactement leur intérieur, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, et à partir de là, ils ne pouvaient plus se permettre d'accuser les autres. C'est un peu le même principe. On le sait que tout le monde en fait des erreurs, alors pourquoi pas avoir un peu de douceur envers soi-même et accepter qu'on en a fait, nous aussi, des erreurs, et finalement, se pardonner. Parce que, comme je dis, c'est un peu comme le deuil. La culpabilité est un cycle qui doit se terminer pour ne pas perpétuer la souffrance. Alors, je te rappelle, si tu as de la difficulté avec ça, à passer à travers la culpabilité, je t'invite à consulter quelqu'un qui pourrait t'aider. Si moi, je peux t'aider, tu peux aller sur mon site pascalbrousseau.com, rentrer en contact avec moi, puis on pourra voir ce qu'on peut faire pour passer à travers ce cycle-là qui est extrêmement bénéfique parce que, comme je dis, garder la culpabilité, c'est destructeur. Ça peut causer des problématiques à plein de niveaux dans notre vie, que ce soit émotionnel, physique ou même comportemental ou même, souvent on le voit beaucoup, dans l'auto-sabotage. On sabote notre vie constamment, que ce soit au niveau des études, du travail, du couple ou tout ça, parce qu'à l'intérieur, il y a de la culpabilité. Et je t'encourage vraiment à le faire pour devenir souverain, pour travailler ton individualisation, comme dirait Carl Gustav Jung, pour évoluer, pourquoi pas arrêter d'être manipulé, arrêter de subir l'oppression des autres. Sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.